dirait des nouvelles à la Biennale internationale de Dakar. Jean-François Cadet,
Steven Elsley,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Et comme vendredi dernier, VMDN a installé son studio éphémère au cœur de la Biennale d'art contemporain de Dakar, plus précisément dans le jardin intérieur au centre de l'atrium de l'ancien palais de justice, un des principaux lieux du IN. Dans cette émission, nous vous emmènerons à la découverte de cette 14e édition avec nos invités, la secrétaire générale de la Biennale, Mariam Ba, le commissaire du pavillon du Sénégal, Massamba Mbaye, et le commissaire du pavillon de Côte d'Ivoire, Henri Nkoumo. Nous entendrons également deux artistes, le street artiste burkinabé El Marteau et le peintre camerounais Ako Angson. RFI et VMDN sont à la Biennale d'art contemporain de Dakar et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour à nos trois invités en plateau et merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Mariam Ba, merci infiniment de nous accueillir dans cette biennale et dans ce lieu absolument incroyable. On est vraiment, comme je le disais, au cœur de l'ancien palais de justice, dans le jardin intérieur de l'atrium. Autour de nous et sur deux niveaux, il y a de très nombreuses œuvres, souvent monumentales, pas uniquement, mais souvent monumentales, qui sont exposées. Quel regard est-ce que vous portez sur ce lieu qui est l'un des principaux sites, l'un des plus beaux aussi peut-être de cette biennale?
Ce site qui est ce que nous appelons la salle des pas perdus de l'ancien palais de justice de Dakar est très symbolique pour nous. C'est un bâtiment majestueux et je pense qu'il convient parfaitement à ce que nous voulons faire de cette Biennale de l'art africain contemporain, un espace d'exposition, un lieu d'expression et de diffusion de l'art, de la culture. En tout cas, ça nous a permis peut-être de mettre en scène, de faire de la monstration par rapport à la création contemporaine africaine et de la diaspora africaine également.
Et toutes les œuvres qui sont ici ont été spécialement créées pour la Biennale ?
Ces œuvres ont été spécialement créées pour la Biennale, puisque c'est des artistes qui ont participé à un appel à candidature. Nous avons accepté le dossier de 59 artistes parmi plus de 600 artistes d'Afrique et de sa diaspora qui ont donc postulé, qui ont candidaté, et la direction artistique, le comité international de sélection, a retenu les 59 artistes.
Donc chacun a présenté un dossier avec un projet très précis et donné une idée de ce que pourrait être leur œuvre finale. Ça s'est passé comme ça?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous avons déjà commis une direction artistique à partir d'un projet. Le projet a été présenté par le docteur Elhadj Malick Ndiaye et le projet s'appelle Indafa Diez. Et à partir de la note conceptuelle donc de ce projet, nous avons demandé, nous avons invité les artistes du monde entier, d'Afrique, de la diaspora et des autres continents, de postuler. Et sur la base de 5 propositions par artiste, nous avons pu en retenir, pour certains artistes, c'est une œuvre qui a été retenue, pour d'autres, c'est vraiment les 5 propositions. Et voilà, il y a eu des collaborations également, des créations in situ en fonction de la force, de la puissance de la proposition de l'artiste. Je pense que c'est ça qui a fait que les 59 ont été retenus par le comité international de sélection.
Et parmi ces 59 artistes retenus cette année à Dakar, le franco-burkinabé Grégory Dabilougou, plus connu sous son nom de street artiste El Marteau, nous l'avons rencontré hier.
Là, j'ai présenté pour cette biennale une série de peu de peintures qui s'intitule Tondo, en référence du coup aux vieilles peintures italiennes de forme circulaire. Et du coup, pour cette série, j'ai représenté donc une série du coup de couvercles de pots de peinture. L'idée était un peu de désacraliser le tondo, qui était plutôt une pièce académique, un peu noble, où là, on se retrouve du coup devant des pièces qui sont plutôt des pièces de récupération, vu que c'est les couvercles de pots de peinture que j'utilise pour réaliser mes peintures murales.
Vous peignez directement dessus ?
Sur les pots, oui, en fait. J'ai pris tel quel. Et ce qui est intéressant, parce que moi, je suis plutôt un peintre urbain, un street artiste, et je suis assez sensible aux murs, aux aspérités des murs, avec le temps, etc. Et donc ces couvercles de pots de peinture m'intéressaient dans le sens où il y a tout un fond, il y a des moisissures, vous pouvez observer de la rouille, des traces de peinture, et ça m'a permis du coup de poser dessus mes dessins.
Donc vous l'avez utilisé comme un mur?
Exactement, c'est ça.
Ce couvercle de pots de peinture à chaque fois, avec des personnages, on reconnaît tout de suite votre style, El Marteau. Alors ces personnages-là, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, hein. Ils portent des noms?
Alors ouais, bah pour en venir déjà au sujet représenter les femmes, moi j'ai une fascination pour les femmes africaines, en l'occurrence, vu que je suis là sur le continent depuis un petit moment, j'ai même des origines franco-burkinabées. Et pour moi, les femmes sont importantes dans le sens où vraiment elles soutiennent elles sont vraiment, j'admire leur force, leur pugnacité, et je voulais vraiment les mettre en avant à travers des sujets différents, dont l'amour, la paix, dont des sujets aussi d'actualité, comme là vous pourrez voir au début une femme dans des voitures qui cassent un mur, donc pour dénoncer un peu tous ces murs qui s'érigent dans le monde. Et j'ai mis aussi en valeur la culture africaine à travers la princesse Yenenga, donc, qui est un personnage incontournable de mon pays, de Burkina Faso, et la culture et plein d'autres sujets aussi qui me tiennent à cœur. Parce que moi aussi, je suis assez sensif et aussi j'ai un travail aussi d'actualité, vu que je fais partie de l'organisation Cartooning for Peace. Donc j'ai mené pas mal d'ateliers et je fais aussi des dessins de presse aussi à côté.
Alors on reconnaît effectivement le côté cartoon de vos dessins pour le coup, le côté très, très coloré aussi. Et alors c'est pas systématique, mais parfois à côté du dessin, il y a aussi des mots, il y a aussi des slogans « Make art, not war », même pas peur, et la force des mots et la force du dessin se répondent. Est-ce que l'un et l'autre ont la même force, le mot et le dessin, El Marteau ?
Moi, le mot, je pense, c'est lié à au fait déjà que mon côté cartooniste, caricature, et mon côté aussi graffeur, aussi j'aime bien m'amuser sur les lettres. Et les mots, c'est plutôt, en l'occurrence, si je prends l'exemple du dessin là, que j'ai réalisé, même pas peur, c'était ça par rapport à un mouvement du coup de femmes pendant le FESPACO, et c'était indigné contre les violences faites aux femmes. Donc ça permet aussi de contextualiser le dessin aussi.
Voilà, donc vous les avez affublés, la femme et la petite fille qui est dans son dos, de gants de boxe.
Exactement, parce que c'est vraiment la force que je veux mettre en avant, le côté fort des femmes. Et du coup, c'est par là que je suis passé, je passe par des dessins, des symboles comme le gant de boxe.
Le message est très fort, mais à chaque fois, vos personnages sont souriants. Même quand il y a un combat contre quelque chose de difficile, même quand il y a la souffrance à la clé, vos personnages sont heureux.
Tout à fait, parce que en fait, déjà, l'Afrique, pour moi, c'est un continent, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, qui est une partie où ce qui est vraiment le rire est très important. Et c'est aussi pour faire passer un message fort, mais à travers un peu de douceur. Même mes dessins, si vous pouvez le voir, sont caricaturistes, colorés. Ça représente vraiment, je m'imprègne vraiment du continent. Un continent où on rigole énormément, mais en même temps, il y a beaucoup de souffrance, mais... on a cette force, de par le rire, de par la dérision, de combattre ces difficultés de la vie.
Alors récemment, à Dakar, El Marteau, vous avez réalisé une œuvre de street art, oui, avec un personnage en situation de handicap. Lui aussi, d'ailleurs, affiche cette joie de vivre. Est-ce Bien que vous sûr. Pouvez nous raconter cette œuvre-là et comment vous avez appréhendé la ville de Dakar?
En fait, on m'avait invité, c'était dans le cadre d'un festival qui s'appelle Playwall. Donc, et ce festival a la particularité de travailler sur des murs plutôt d'associatifs, de gens engagés socialement. Donc, ils m'ont fait venir et j'ai travaillé en plus en binôme avec un autre Sénégalais, un autre peintre sénégalais. Et là, l'idée de ce mur, donc c'est un centre qui s'appelle Aminata Mbaye, qui est un centre qui se bat pour la réinsertion des jeunes en situation de handicap. Et dans ce mur, j'ai réalisé du coup un enfant en fauteuil roulant, mais en super-héros. Parce que le super-héros est un personnage qui revient souvent aussi dans mes dessins. D'ailleurs, quand j'étais professeur, je disais toujours à mes élèves que le but d'une vie, c'est de trouver ses super-pouvoirs. Une fois qu'on a trouvé ses super-pouvoirs, on peut réaliser tous les rêves qu'on veut. D'ailleurs, j'ai même fait un podcast qui s'appelle African Super-héros, que je vous encourage à écouter. Et donc voilà, c'était un projet assez intéressant. En plus, le timing était assez court. On a eu 3 jours pour le réaliser, sachant que la fresque fait 4 mètres de haut peut-être. Moi, après, je vois l'art vraiment comme un challenge. C'est pour ça que j'aime la peinture murale, car à chaque fois, il y a toujours ce challenge de pouvoir réaliser le mur, ce grand format. Et moi, ce qui est important, c'est surtout la réalisation, pas forcément l'objet final.
Mais est-ce qu'on fait du street art de la même façon dans une ville comme Dakar, dans une ville à Paris, que vous connaissez aussi, ou dans une ville comme Ouaga?
Non, car moi, à chaque fois, c'est des grands moments. Je peins vraiment... Beaucoup, je suis focus sur l'Afrique de l'Ouest. Et ce qui est la particularité, je pense, de toutes les peintures que j'ai faites dans tous les quartiers, c'est vraiment cet accueil qui est à chaque fois légendaire. Je prends l'exemple, par exemple, d'un moment qui m'avait beaucoup marqué. J'avais peint une fresque à la Médina de Meknès. Et du coup, à la fin de la fresque, je venais de finir. J'étais au bout de ma vie parce que c'était une super grande fresque. Et là, il y a un enfant qui m'apporte un couscous fait par sa maman. Juste, le moment était magique. Il y a toujours ces petits moments-là avec la population. Et même à Dakar, quand j'ai fini la fresque, les gens se sont vraiment imprégnés de la fresque et il y a toute une émulation qui se crée. vu que c'est quand même la particularité aussi de l'Afrique de l'Ouest, c'est que les gens sont quand même vivent beaucoup d'heures. Donc ils sont très sensibles aussi à le fait que je m'investisse dans leur quartier de par ces peintures. Et peut-être le côté positif dont vous parliez vient du street art, car dans la rue, on ne peut pas réaliser n'importe quoi. Il faut quand même que moi, j'aime bien que les gens s'accaparent l'œuvre, donc ça passe par le positivisme. Et je pense qu'on est dans un moment aujourd'hui, un moment un peu anxiogène, où l'amour est important et le positivisme. Et aussi, il y a aussi le fait aussi que je trouve qu'on dépeint souvent l'Afrique de manière un peu misérabiliste, pauvre, etc. Et moi, je ne partage pas cette idée. Je suis un combattant, en tout cas, de l'Afrique, et j'ai envie qu'on revoie l'Afrique différemment.
Mais quand on regarde vos œuvres et le marteau, on se dit que votre inspiration, avant d'être africaine, elle est occidentale, elle est européenne, elle est américaine, à travers les comics. Par exemple, on parlait des super-héros, à travers la bande dessinée, à travers les dessins animés aussi. Quelle est la part d'inspiration africaine dans votre travail ?
Je pense que peut-être mes armes, mes outils, si on peut dire, sont métissés. Donc forcément, j'ai grandi en France. Donc après, du coup, j'ai eu plusieurs vies, dont une vie en France. Donc ça, il y a un côté métissé dans mon travail. Mais du coup, l'africanité, je pense, elle est par rapport au sujet que je représente, dont les personnages qui sont la plupart du temps africains. Et aussi les couleurs et ce positivisme, c'est là où je pense que j'ai pris par rapport à mes dessins d'avant qui étaient beaucoup plus froids, beaucoup plus durs. Là, ça s'est quand même au niveau des traits, ça s'est arrondi, c'est beaucoup plus doux qu'avant, je pense. Mais je garde toujours ce côté militantisme malgré tout.
Est-ce que vous positivez aussi le marteau quand vous pensez à la situation actuelle au Burkina Faso ? Peut-être référence aussi à votre œuvre de street art qui s'appelait La Tentée de la Liberté, qui est pour le coup aussi une œuvre d'espoir réalisée dans une période plutôt noire pour le pays.
Tout à fait, oui. Ben, je pense que les artistes, chaque artiste s'engage que de sa manière, mais moi, mon engagement est plutôt de donner de l'espoir aux gens. D'où mon podcast aussi, African Superhero, où je vais à la rencontre de créatifs de tout horizon. Et j'essaye de les valoriser à travers cela. Donc ouais, le problème, pour en venir au Burkina, c'est que je vis à Ouaga. Et à Ouaga, nous sommes dans une espèce de petite bulle qui nous fait oublier des fois la situation de l'extérieur. Donc vu que Ouaga était quand même touché par des attentats, mais à Ouaga, on est vraiment un peu en dehors de tout ça. Donc c'est un peu bizarre, mais ça se ressent de plus en plus. L'impact sur mon travail, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment si je garde toujours mon cap positif. Après, on n'a pas le choix, on est obligé d'être positif aujourd'hui, sinon on va se tirer une balle ou je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, on le sent de plus en plus. Mais du coup, aussi, Ouaga aussi est quand même une ville qui a connu comme beaucoup d'événements malheureux. Donc je pense que ça nous a créé une force en nous qui nous permet de combattre l'adversité aujourd'hui, beaucoup plus que peut-être dans d'autres pays.
Alors, il y a votre travail de street artiste, il y a les œuvres comme celles que vous exposez ici dans l'ancien palais de justice de Dakar, et puis il y a aussi ce qu'on pourrait appeler les produits dérivés. Alors, il y a des t-shirts, il y a différents objets, il y a de la vaisselle par exemple. Vous le voyez comme du marketing, comme une forme de prolongement de votre art ou comme une forme de porte ouverte sur tout le reste ?
Alors moi en fait, vu que comme vous avez remarqué, j'aime bien du coup le côté populaire, d'où le fait de vivre à Ouaga, qui est quand même une ville quand même assez populaire, etc., où il y a bien d'événements autour de la population. Ils aiment bien mélanger la population et l'art. Donc du coup, mes objets dérivés, je les fais d'une part pour rendre accessible mon art à tout le monde, parce que je ne veux pas que ça soit juste restreint à certaines minorités. Et ça me permet aussi du coup d'aller dans d'autres domaines et de vendre mon art différemment. Mais tout, en fait, c'est un dialogue, je pense, entre tous mes domaines artistiques, que ce soit le street art qui dialogue avec mon côté plutôt art contemporain ou le cartoon. Donc c'est vraiment un ensemble. Et moi aussi, j'ai fait des études aussi à la base dans le graphisme, la communication. Donc c'est ça aussi. J'ai toujours été fasciné par les objets dérivés, par le pop art, etc. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que je garde ce côté aussi objets dérivés aujourd'hui.
À quand un film d'animation signé le marteau ?
Ah, c'est marrant que vous m'en parliez, c'est vrai qu'on n'arrête pas de m'en parler. Mais bon, le problème, c'est le temps, je pense. Il faudrait un peu plus de temps, mais j'adorerais. Surtout que j'ai déjà réalisé des BD. J'ai fait un comic reportage aussi, donc je pense que j'y vais tout doucement, étape par étape.
El Marteau, street artiste burkinabé, dont la rue est à la fois l'atelier, le terrain de jeu et l'écrin d'exposition de ses œuvres, même si son travail va, on l'aura compris, bien au-delà. Et la Biennale, Mariemba, elle a aussi souhaité que les artistes investissent la rue, qu'ils partent donc à la rencontre des Dakarois. Il y a une biennale hors les murs, dans les galeries, dans les musées, mais aussi en extérieur, par exemple sur la Corniche Ouest.
Oui, l'idée c'est d'amener l'art vers la population, vers le public profane. Et c'est pour ça que nous avons choisi 18 artistes qui nous ont donné à voir des structures monumentales sur la Corniche Ouest, l'une des plus belles corniches d'Afrique et du monde.
Massamba Mbaye, on va parler évidemment du pavillon sénégalais tout à l'heure, mais vous avez l'habitude évidemment de cette biennale d'art contemporain de Dakar qui est un rendez-vous important. Est-ce que les Sénégalais, est-ce que les Dakarois se sont pleinement appropriés cet événement et est-ce qu'ils sont de plus en plus sensibilisés aux démarches artistiques?
C'était l'intention, parce que en fait la biennale s'est toujours exprimée dans des cadres spécifiques. Mais il y a toujours eu également sur le plan conceptuel des extensions dans la rue avec des manifestations autour de l'art, mais des manifestations autour des arts visuels plutôt et des manifestations autour d'autres formes d'expression artistique. Et le projet de Rontou est un projet qui s'intègre dans ce domaine-là, mais le OFF également est un élément supplémentaire de mise en lien et de médiation artistique à une échelle beaucoup plus grande que les lieux consacrés dits de la biennale.
Alors ce projet d'exposition d'art en extérieur, il s'appelle Dorantou, Mariam Bach. Ça veut dire quoi Dorantou?
Dorantou, c'est la promenade Dorantou, tout simplement en langue Wolof. Donc c'est donner à la population de s'approprier donc la création des artistes, de s'approprier également l'espace. Qu'est-ce que l'art peut offrir de plus dans un espace? Donc c'est une conception esthétique, artistique également, et une démarche environnementale aussi. Et c'est ce que nous avons voulu donner à voir au public à côté des 450 manifestations off qui se déroulent à Dakar, mais également dans la banlieue dakaroise, dans les autres régions, notamment Saint-Louis, Ziguinchor, Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, mais également dans la diaspora. Nous avons des expositions off à Lomé, nous avons des expositions off en Italie, en France, à la Mayotte. Donc dans les îles, voilà, c'est ça la biennale, c'est cette ouverture au monde et cette capacité de dialoguer avec le reste du monde.
Soul of Blues dans VMDN sur RFI, extrait de Sultan, le dernier album du bassiste Alun Wad, qui était en concert hier soir ici à Dakar en ouverture de la Biennale d'art contemporain dont vous êtes la secrétaire générale, Mariemba, et dans le parcours que vous proposez aux visiteurs de cette 14e édition, il y a bien sûr le pavillon du Sénégal. Massamba Mbaye, vous en êtes le commissaire. Alors le pavillon, il se trouve au premier étage du musée des civilisations noires, ici à Dakar. C'est un espace 100% sénégalais que vous avez placé sous le patronage intellectuel, en quelque sorte, de l'écrivain Birago Diop et d'une phrase extraite de son livre « Les contes d'Amadou Koumba ». « Quand la mémoire va chercher du bois mort, elle rapporte le fagot qui lui plaît. » Et c'est justement un mot qui signifie « fagot » que je vous laisse prononcer, s'il vous plaît.
Locito.
Donc ça veut dire « fagot » en quelle langue ?
En mandingue.
En mandingue. Et c'est ce locito que vous avez donc choisi comme thème fédérateur de ce pavillon sénégalais. Pour quelle raison ?
Exactement, parce que j'ai évoqué Birago Diop, mais j'ai évoqué également d'autres penseurs d'ici ou d'ailleurs, comme Chakanta Diop, etc. L'Occito, c'était une interrogation première. Si on parle de pavillon Sénégal, il y avait quelque chose de pavillonnaire, littéralement. Et donc, l'idée, c'était de revisiter les fondamentaux de la nation sénégalaise ou de l'État du Sénégal. Il y a un travail d'ailleurs qui a été fait un peu sur les conjonctions entre État et nation. Mais au-delà de ça, l'idée c'était de voir également le Sénégal qui est une géographie commune et partagée, en quoi ça peut avoir sens de l'interroger sous l'angle esthétique. Et lorsqu'on l'interroge sous l'angle esthétique, on se rend compte très rapidement que la géographie est très vite dépassée par d'autres formes de géographie, un découpage administratif, une géographie qui peut être corrélée à des régions naturelles du Sénégal, mais ça peut être aussi d'autres formes d'expression géographique. La part onirique, les gens ont une activité diurne, ils ont une activité nocturne. Quand ils dorment, ils rêvent de quoi ? En Afrique, il y a des formes très précises d'interprétation des rêves. Il y a un ouvrage monumental qui a été fait par un chercheur sénégalais qui s'appelle Djibril Samb. Et cet ouvrage a été pris Noma. C'est une forme également d'interrogation qu'on a donnée à apprécier par les artistes. Mais le rêve, c'est également le rêve au sens projectif du terme. Lorsqu'on se projette, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en évidence et que les artistes ont senti. C'est également une modalité sur le plan religieux. Le dialogue interreligieux, les communautés qui se parlent, qui sont dans une sorte de convivialité. Est-ce que ça inspire les artistes ? Sur le plan gymnique également, le Sénégal a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. On a vu des drapeaux fleurir. Qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est juste conjoncturel ? Est-ce que c'est revivant pour quelque chose ? Toutes ces questions-là et toutes ces interrogations ont été littéralement transposées aux artistes qui ont travaillé pour une grande part en binôme, oui, et qui nous ont proposé des œuvres. Il y a des artistes qui ont travaillé pendant 2 ans et demi, d'autres un peu moins. Il y a eu des binômes qui ont marché, d'autres qui n'ont pas vraiment marché, mais c'était prévu. C'est le propre même de la vie humaine, de notre rapport à l'autre, etc. Et l'autre élément qu'il faut préciser, c'est que, en fait, nous ne sommes pas dans des logiques d'enfermement. Mon équipe curatoriale est composée d'une malienne, d'une gabonaise. Mes références sont universelles. Et l'idée, ce n'était pas d'être dans des logiques d'enfermement, mais de voir dans l'un comment on peut contribuer à la marche du monde suivant le principe de l'enrichissement et de l'ouverture.
Donc 21 artistes pour créer à l'intérieur de ce pavillon du Sénégal, ici à Dakar. On n'aura pas le temps d'évoquer toutes les œuvres, j'en ai sélectionné quelques-unes. Alors ça, c'est vraiment mon regard à moi, c'est purement personnel. Massamba Mbaye, par exemple, il y a ce film réalisé par Baye Gallo sur les noms de famille sénégalais qui s'intitule « Spiritualité ». Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, en fait, il a 2 œuvres. Il y a un travail qui a été fait sur la spiritualité, ce sont les tableaux, et il l'a mis en lien également entre les noms de famille. Au Sénégal, ou même ailleurs, on vous identifie par rapport à votre nom. Mais le fait de les évoquer de cette manière comme une litanie, c'est une manière aussi de convoquer notre manière d'être en lien avec les autres, pour voir que finalement, en étant ensemble, nous pouvons tous être parents. Cette parenté-là, elle est cela même qui nous permet de nous projeter sur l'universel.
Autre installation très, très composite, celle-ci, Samp, avec un... Alors là, ce n'est pas en binôme, c'est un trio d'artistes, qui est à l'œuvre. Donc Daoulane Diaye, Abderrahman Gaïdé et Momar Seck. Vous pouvez déjà nous le décrire ?
Cette installation met en situation déjà une configuration spatiale précise, parce que Dakar, c'est traditionnellement la ville des Lébous. Et donc, sur le plan scénographique, on a créé une petite contrainte, même dans la circulation, afin de suggérer l'espace Lébou. Parce que dans la tradition Lébou, quand un étranger vient, on l'accueille, on lui donne à manger et on lui trouve un espace. Et avec le temps, cet espace est devenu très confiné finalement. Et l'idée, c'était de le suggérer. L'autre aspect, c'est qu'on a un Lébou du Sénégal qui a proposé, qui s'appelle Daoud Ndiaye. On a un Lébou qui vit en Suisse, Momarsek. On a quelqu'un qui vient d'ailleurs, Abderrahman Ngaïdé, qui lui, en fait, est un réfugié mauritanien qui est venu à Dakar et qui a été adopté par Dakar et il s'est adapté à la ville. Donc, ce sont ces éléments-là, en fait, qui composent déjà Samp. Mais Samp, c'est également les éléments totémiques, les éléments référentiels de la République Lébou. Et, en fait, Dakar est composé d'une face moderne et une face traditionnelle, et c'est cette face traditionnelle qui est revenue de cette manière. Mais en fait, c'est cette ambivalence, ce rapport dialectique entre le passé et le présent, cette manière d'être dans la convivialité aussi, qui est rappelée dans cette installation.
Alors, une dernière œuvre que je voudrais que vous nous commentiez, c'est vrai qu'elle est frappante, et je pense que tous les visiteurs de cette biennale, quel que soit l'endroit du monde d'où ils viennent, vont être frappés par cette statue de la liberté, oui. Made in Africa, peinte par Mouhamadou Dia.
Oui, c'est une pièce que Mouhamadou Dia a réalisée, son travail a duré une année. Ça avait commencé donc par du fusain. Il a donné de la pâte davantage parce que l'idée, c'était d'être également dans des logiques d'universel et d'universalité. C'est cette statue de la liberté. Elle porte des boucles d'oreilles. Elle a des cheveux d'Africaine. Elle tient les tables de la charte du Mandé, qui est l'une des premières chartes qui met en valeur l'humain au cœur de toute chose. Et cela est symbolique et particulièrement révélateur, en fait, de l'idée de ce pavillon. Cette manière d'être ensemble, cette manière d'être avec le monde, cette manière aussi de créer, cette manière de mettre la créativité autour de cela même qui pourrait faire qu'on soit fraternellement sur cette terre.
Vous m'en direz des nouvelles est à Dakar.
VMDN à la Biennale de Dakar, effectivement, avec la secrétaire générale Mariam Ba et les commissaires des pavillons sénégalais et ivoiriens. J'ai nommé respectivement Massamba Mbaye et Aurine Koumo. Alors Mariam Ba, la thématique de cette année, c'est Indafa Dièse, forgé out of fire. Comment est-ce que vous pourriez résumer cette thématique en quelques mots? Indafa, ça signifie forgé, c'est un mot serrère, je crois.
C'est un mot serrère, en fait. Donc Indafa a été retenu parce que c'est le projet artistique tel qu'il est défini par Dr Elhadj Malick Ndiaye. Mais en fait, c'est juste une nouvelle lecture des écritures africaines. Tout simplement, des écritures plastiques africaines. C'est ça que nous avons essayé de donner, à comprendre, à partager avec le reste du monde. C'est de voir comment est-ce que le travail des artistes, le travail des intellectuels africains pourrait également être désintégré et reconverti également dans l'ensemble des concepts, des écritures artistiques du monde et pouvoir les intégrer à l'intérieur et partager un message entre ces artistes, ces intellectuels, ces sachants africains et apporter une valeur à ce que, à travers le monde, nous avons comme concept, notamment dans le domaine de l'art africain, dans le domaine de l'art tout simplement. Il y a une contribution indéniable des artistes africains. Il y a une créativité reconnue universellement maintenant à travers le monde et on aimerait que ça puisse être partagé et accepté.
Acceptons-en l'augure. Aurine Koumo, ce mot forgé, justement, vous l'avez repris dans la thématique que vous avez choisi d'explorer dans le pavillon ivoirien, puisque cette thématique, c'est forgé la Méditerranée. Comment est-ce que vous avez perçu justement ce terme forgé?
Oui, forgé est un concept que la Côte d'Ivoire accueille avec beaucoup de bonheur et puis beaucoup de plaisir. Parce que le mot forgé est un mot qui est actif. Forger, c'est dominer. Forger, c'est orienter. Et il est important que dans le cadre de la Biennale, la Côte d'Ivoire soit présente avec une vision très claire du destin qu'elle entend proposer à l'Afrique. L'image que nous avons choisie comme thème de notre exposition est une image surréaliste.
Alors, forger la Méditerranée, c'est effectivement l'expression que vous avez choisi de mettre en exergue. Alors, ça peut sembler un petit peu mystérieux parce que, sauf erreur de ma part, la Côte d'Ivoire n'est pas riveraine de la Méditerranée. Aurine Kubo, vous êtes d'accord? Pourtant, elle est peut-être plus proche qu'on pourrait le penser au premier abord.
Oui, la Côte d'Ivoire est du côté de l'Atlantique, mais la Méditerranée est une sorte de grande synthèse des plaies qui habitent et qui gagnent l'Afrique. L'Afrique, on le sait, est traversée par mille et un problèmes, et la Méditerranée est une sorte de grand résumé de ce malaise. Lorsque des jeunes, des femmes, des fillettes choisissent d'affronter la Méditerranée, parce que ces jeunes-là, ces personnes-là n'ont plus de destin, n'ont plus de lumière sur leur continent, ça interpelle. Et forger pour nous, c'est se dire que l'Afrique doit être capable de se tracer un destin. Un destin, il se trace, il s'apprivoise et puis il se met en place. Et la Biennale, justement, nous a offert cette possibilité-là de nous dire que l'Afrique, c'est aussi un destin. Mais un destin qui n'est pas un destin subi, mais un destin qui est un destin à renouveler. Parce que forger, c'est ça le mécanisme. Forger, c'est tout un mécanisme de reconstruction permanente. Voilà. En tout cas, merci à la Biennale pour cette proposition. Et il faut souhaiter que dans quelques années, la Méditerranée ne soit plus un espace laid, mais soit un espace de vie pour permettre ce que nous appelons le pont entre les populations, entre les peuples.
Alors là, comme dans le pavillon sénégalais, je me suis promené, moi aussi, hein, je suis allé voir les différentes œuvres que vos artistes proposaient aux yeux du public ici à Dakar. Alors déjà, il y a cette immense photo en noir et blanc de François-Xavier Gbré, hein, qu'on a déjà reçu aussi dans cette émission et qui ouvre en quelque sorte un petit peu le voyage. Et il y a une des œuvres aussi qui évoque un vrai drame. Et je pense que c'est peut-être l'œuvre qui va susciter le plus de réactions de la part des visiteurs, Henri Kumo. C'est d'œuvres qui parle de la mort de ses deux enfants, Yagin Koïta et Fodé Tunkara, dans le train d'atterrissage d'un avion de la compagnie belge Sabena à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem. C'était en 1999. Et un hommage très émouvant, très lourd de signification aussi, hein, est rendu dans le pavillon ivoirien.
Ah oui, c'est une œuvre importante et c'est avec beaucoup de bonheur que nous avons choisi de la proposer. La pièce, elle est de Pascal Nampemala Traoré, qui a su mettre en lumière ce drame qui semble passer inaperçu. L'une des faiblesses que nous avons sur le continent, c'est que nous n'avons pas la capacité de célébrer nos mémoires. Il y a des drames qui sont permanents et ces drames-là doivent faire l'objet de commémorations. Mais malheureusement, nous avançons sans nous construire. Nous avançons sans poser des pieux. Parce que ce sont les pieux qui permettent justement de ne pas constamment s'enfoncer. Et l'œuvre de Pascal est d'importance. Il y a eu, on sait comment ça se passe en Europe, de façon générale, il y a des commémorations pour des événements importants. Ici, malheureusement, en Afrique, bon, ce sont des choses qui passent pour perte et profit et c'est bien malheureux. Mais au-delà de Pascal Nampemala, tous les artistes qui ont été convoqués pour ce programme entrent en dialogue avec le thème général qui est proposé. Que ce soit James Kokobi qui propose un ensemble de 5 sculptures monumentales, ou bien...
Sculpture en bois brûlé, là.
Exactement.
Impressionnante.
C'est du bois qu'il a fait passer au feu.
Oui. Et ça s'appelle Prédateur.
Oui, Prédateur. C'est une somme de pièces qui mettent en dialogue 4 sculptures contre une, parce qu'il y a l'une des sculptures qui est étêtée, elle n'a pas de tête, et mettons, elle a les bras juste pour cacher une sorte de faiblesse, une sorte de honte. Et pour l'artiste, c'est la pièce en question qui a étêtée, ben c'est l'Afrique, voilà. L'Afrique qui est victime, l'Afrique qui n'a pas de regard, l'Afrique qui ne sait pas où elle va, et l'Afrique qui a une posture, mettons, assez laide par rapport à tous ceux qui viennent et qui ont une posture d'agresseur. Mais je pense que les artistes que nous avons proposés sont entrés de plein pied dans le thème qui est proposé. Ouais.
Mariamba, pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de mettre à l'honneur cette année, parmi les autres pays que le Sénégal, la Côte d'Ivoire et la Chine?
Alors, vous savez que la Biennale, c'est un très grand réceptacle de la création contemporaine du monde. Et nous avons choisi la Côte d'Ivoire et la Chine parce que ces deux pays entretiennent d'excellentes relations avec le Sénégal. Mais au-delà de cela, c'est la réalité de la création et de la créativité dans ces deux pays. Vous n'êtes pas sans savoir, et vous avez écouté le discours du chef de l'État lors de la cérémonie d'ouverture qui a parlé de la place de la Chine sur l'échiquier mondial dans le domaine de l'art. Et en évoquant le rapport Art Price 2022, la Côte d'Ivoire, comme il l'a souligné tout à l'heure le commissaire Henri Nkomo, nous avons des artistes tels que James Kokobi, Valérie Oka, qui avait été lauréate d'un prix de la Biennale auparavant.
Valérie Oka Mandela, qui expose là, en l'occurrence, une araignée géante.
Et qui rend hommage aux femmes et qui rend hommage au travail des femmes à travers la Côte d'Ivoire, mais également en Afrique. Donc c'est vraiment la relation qui existe. Et beaucoup d'artistes ivoiriens qui ont été choisis et qui ont également exposé à la Biennale de Venise sont des artistes qui font toujours la démarche aller-retour entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Pour les artistes chinois, c'est vraiment la thématique qui a été reprise, mais également c'est ce qu'ils font dans le domaine de l'espace urbain. Et ça transparaît dans le travail du curateur chinois. Donc c'est ça qui nous a beaucoup plus intéressés.
Tirer des nouvelles à la Biennale internationale de Dakar.
Poursuivons à présent notre visite de cette biennale avec un autre artiste. Nous avons entendu tout à l'heure le Burkinabé El Marteau. Écoutons à présent Ako Hangson qui porte haut les couleurs du Cameroun.
Le travail que je présente ici dans le IN, c'est un travail qui est vraiment lié, ça a un caractère narratif et très politique dans le thème que j'ai évoqué ici. Je parle de transhumance ici parce que nous avons vécu au Cameroun, déjà dans mon pays, beaucoup de situations assez difficiles. Il y a eu l'instabilité au niveau des parties comme le nord du Cameroun, le sud-ouest du Cameroun, où les populations ont été confrontées constamment à se déplacer de manière involontaire par des guerres successives, quoi. Donc, dans le sujet que j'aborde ici, je montre des populations, le peuple en souffrance. Et la plupart ont quitté leur base naturelle en laissant derrière eux leurs traditions et coutumes. Bon, ça, c'est le thème que j'avais abordé dans ce travail. Ben, j'ai élargi quand même le terme pour l'ensemble de l'Afrique parce que c'est la même chose qu'on vit, que ce soit en Afrique centrale dans son ensemble et un peu l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, avec Boko Haram et le terrorisme.
Et comment avez-vous représenté, justement, graphiquement, ce thème de la souffrance liée à la transhumance ?
Voilà, ce thème, lorsque vous regardez un peu le travail que j'ai présenté, la posture que les personnes ou les figures que je pose sur la toile évoquent vraiment les postures de détresse et de souffrance. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça transhumance. Et dans une transhumance, on rencontre beaucoup de difficultés parce qu'on est parfois confronté à la maladie, on est parfois confronté à des attaques de bêtes et on est exposé à tous les risques, quoi. Et on va comme ça sans rien prendre avec soi-même. On prend que l'essentiel parfois. On a juste son habit, son vêtement et on n'a même pas de quoi tenir. Donc c'est un peu le sujet que j'évoque ici. Et ça, c'est un sujet qui, les Africains en souffrent depuis même avant les indépendances.
Alors il y a des personnages de taille très différente sur cette toile, sur ces toiles, à Ako Hangson, que représente-t-il et comment entre-t-il en interaction les uns avec les autres ?
Au niveau des tailles, c'est l'ensemble de la représentation de mon pays, le Cameroun, parce qu'on trouve à l'est des gens qui sont de petite taille, au nord des gens qui sont de grande taille. On va trouver des gens qui sont un peu plus et qui ont un peu plus d'épaisseur, qui sont costauds. Il y en a qui sont aussi très effilés, qui sont minces, maigres. Et il y en a qui sont maigres naturellement pour des problèmes déjà naturels, parce qu'ils traversent des souffrances, quoi.
Et puis, il y a aussi ces petits personnages qui sont effectivement dans des postures de souffrance, qui, eux, sont peints en blanc, aux côtés de personnages qui sont, au contraire, extrêmement colorés. Ce sont ces mêmes personnages que vous représentez de deux façons différentes, c'est-à-dire que les petits personnages vous permettent d'entrer dans le cœur et dans la tête des grands.
Et les grands personnages qui sont extrêmement colorés, ça évoque leur vie antérieure avant la transhumance. C'est-à-dire que c'était un peuple qui était très fier. C'est-à-dire avec des coiffures, des perruques, des objets rituels et cérémoniaux. Donc Ils avaient plein d'objets comme ça d'ornements naturels, franchement, qui étaient intéressants à voir. Mais après qu'ils passent par la transhumance, ils oublient derrière eux tous ces objets-là, tout ce côté esthétique de leur vie naturelle. Donc c'est pour ça que sur la toile, j'essaie d'évoquer un peu le passé et le futur, et un futur incertain, parce qu'ils ne savent pas. Ils laissent derrière eux l'ensemble de leur culture et tradition. Ils abandonnent tout et ils vont rentrer dans un métissage qui très souvent ne leur convient pas. Et on les considère toujours là-bas comme des occupants ou des étrangers.
Vous racontez des histoires en fait. Est-ce que vous êtes un griot du pinceau ?
Disons que déjà j'appartiens à l'une des grandes chefferies traditionnelles de mon village. Donc mon père était premier notable de son village. Il n'est plus là. C'est lui qui avait le droit d'installer le chef au trône. Donc après lui, c'est mon petit frère qui est l'héritier du trône, de sa chaise, c'est ce qu'on dit. Et mon petit frère, il assume intégralement le rôle, la fonction que mon père jouait. On va dire ici en Afrique de l'Ouest, il serait normalement le griot. Mais moi, comme mon père aussi, m'a initié quand j'étais petit et quand j'ai gardé en lui beaucoup de choses. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est parti le côté subtil de l'art. C'est-à-dire savoir qu'à partir d'un objet, peut avoir quelque chose de très fort, quoi. Et d'ailleurs, j'annonce que mon père était sculpteur. Mon père était sculpteur à ses heures perdues. Ça, c'était pour la chefferie. Ça, c'était pas pour vendre. Un peu comme un griot, comme on disait tout à l'heure. Et c'était une passion à lui. Il était musicien. Il a joué beaucoup de guitare traditionnelle. Et il avait une guitare qu'on appelle un vet. Bon, au Cameroun, ça, c'est très connu. C'est trois calebasses comme ça, avec des fibres de bambou de bois. Voilà.
La tradition et la transmission, ce sont finalement les deux thématiques qui guident votre travail artistique.
Exactement. Mais sinon, je vais un peu plus loin. Il y a un côté qui est très, très politique là-dedans. Le côté politique, c'est quoi? Le volet politique, c'est que depuis que les peuples africains ont été confrontés, depuis qu'ils ont fait la rencontre avec l'islam et le christianisme, c'est un peuple qui est en souffrance. C'est un peuple qui a perdu tout ce qui a été des valeurs propres. Et ils ont été tellement perturbés par ces deux religions. Parce que l'ensemble de guerres, l'ensemble du désordre qu'il y a en Afrique est principalement causé par ces deux religions-là. Alors, ce qui était notre religion, ce que j'ai connu, qui était, on a vulgairement appelé l'animisme, c'était pourtant une religion. On n'a pas attendu l'arrivée du colon pour connaître Dieu. Ils ont trouvé que nous, on connaissait déjà Dieu. Et le peuple de mon village, le peuple de ma tribu, vient depuis l'Égypte, d'après l'histoire. Donc, c'est un peuple qui est très ancien, qui est très vieux. Alors, nous, on a été, en quelque sorte, franchement, victimes de la rencontre avec d'autres religions.
À Kwangson, transhumance, ici, dans le in de la Biennale de Dakar, et dans le off, sur le chemin des réfugiés, encore une œuvre autour de la notion de déplacement humain, de la notion de souffrance aussi. Ces deux expositions artistiques en même temps entrent en résonance clairement l'une et l'autre.
Oui, il y a une similitude là-dedans, mais dans le cadre de OH, c'est une autre forme de transhumance. C'est-à-dire, là j'évoque un peu aujourd'hui nos territoires en Afrique qui sont bradés à des sociétés qui viennent de partout, de l'Inde, de la Chine, du Pakistan. C'est des forêts que les gens ont trouvées et qui aujourd'hui, on spolie tout, on abat les arbres, on détruit les forêts. Et dans ces forêts-là, ils étaient habitués, c'était un lieu de vie pour de certaines tribus de Chinois. Par exemple, les gens de l'Est, les Pygmées. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont en train d'errer dans les centres urbains, et non plus, on les a délocalisés de chez eux, dans les lieux de vie. Et c'est pour ça que je parle de transhumance. C'est l'ensemble de cette transhumance-là. C'est des personnes qui sont aujourd'hui égarées dans les milieux urbains. Eux, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Ils sont en ville en train d'errer. Et c'est un peu ça partout qu'on retrouve le même problème en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, sans compter des petits groupes de rébellion à gauche, à droite, qui sont à la recherche de matières premières, le lithium et cobalt et tout ça. Et le comble de tout ça, c'est qu'on a, dans tous ces pays-là, les chefs d'État qui ont chacun plus de 20 ans au pouvoir. Je ne sais pas si en Europe, on aurait accepté un monsieur qui a 20-25 ans de règne. Et ce qui fait aujourd'hui, ça crée un sentiment. Et ce ressentiment, je suis très content parce que aujourd'hui, par exemple, la France commence à comprendre ça, le sentiment anti-français. Ce ressentiment, c'est du français vient du fait que la population se rend compte que chaque fois qu'il y a une élection, par exemple présidentielle, les chefs d'État qui sont là depuis une trentaine d'années, parfois même sans même attendre les résultats de la Cour constitutionnelle, alors que ce soit l'Europe, que ce soit l'Union européenne, que ce soit le gouvernement, par exemple français ou allemand, ils approuvent, ils disent félicitations au nouveau président, il a été bien élu. Et ça, ça crée au sein de la société une forme de frustration parce qu'on est tellement habitué. Imaginez, moi j'ai 54 ans aujourd'hui et de voir que j'ai connu à peine deux présidents, ça c'est déjà un gros problème quoi. Et je ne pense pas qu'il y a un seul Européen, un seul, qui l'aurait accepté. C'est ça, je pense, à mon avis, la source de ce ressentiment. Sinon, je ne pense pas que les populations africaines détestent que ce soit les Français ou les Européens. Nous vivons en harmonie, d'ailleurs que nous nous sommes tellement habitués. Aujourd'hui, quand on est confronté, par exemple, à des nouvelles sociétés comme les Chinois ou les Indiens, on sent vraiment une grosse différence. Ils ne partagent pas comme les Européens. C'est des gens qui vivent en communauté, fermés. Alors que quand on avait les Européens, ils sont très ouverts. On s'entend, on est tellement habitué. Je pense qu'il faut régler ce petit détail-là. Ce petit détail fait vraiment un problème. Et c'est ça qui crée ce ressentiment, qui reste dans le cadre politique. Il faut régler ce détail. Franchement, c'est très... Je comprends pas pourquoi est-ce que les gens ferment les yeux à cette situation-là.
Le peintre camerounais Akho Angson, que nous avons interrogé vendredi dernier ici à Dakar et qui expose d'ailleurs ici même au Cap Manuel, à l'ancien palais de justice, un des grands lieux du IN. Alors on évoquait aussi avec lui le OFF, parce que certains artistes sont présents à la fois dans le IN et dans le OFF. Mariemba, comment est-ce que vous articulez les choses entre le IN et le OFF? Il y a une vraie complémentarité, ce sont deux structures qui essaient de se parler, de communiquer?
Oui, c'est ça l'intérêt de la biennale, c'est-à-dire que c'est une sélection très rigoureuse, très stricte par rapport aux propositions et à la thématique de la biennale. Mais à côté de cela, les OFF sont des manifestations d'envergure, des manifestations d'accompagnement et qui permettent un maillage territorial de la biennale dans la ville de Dakar, mais également au-delà, comme je l'expliquais tantôt. Et également, c'est de donner l'occasion aux artistes de montrer leur travail. C'est important. C'est important parce qu'il y a un véritable marché de l'art pendant la biennale. C'est leur donner l'occasion de vendre.
Bien sûr, on en a parlé dans la première édition, effectivement, vendredi dernier.
De vendre, absolument.
C'est évidemment très très important. Merci beaucoup à tous les trois. Merci aussi à Baptiste Antoine, Alassane Bireba et Steven Elsley. Demain, ultime émission à Dakar. Alors, on va parler de tout à fait autre chose cette fois-ci. Les séries sénégalaises qui cartonnent en ce moment à la télévision. Je ne sais pas si vous en êtes effectivement des fidèles. En tout cas, si vous l'écoutez, croyez-moi, vous m'en direz des nouvelles.